Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL, c'est l'heure de la curiosité avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Bonjour,
bonjour
les curieux.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour Bénédicte, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une heure de curiosité sur RTL. Ici, vous le savez, on se cultive dans la bonne humeur. Comment va ma super Bonnec?
Ça va pas du tout.
Mais si, ça
va très bien, évidemment.
Ça vous arrive
jamais,
ça. Je
suis ravie de vous retrouver. Salut les curieux, tout à l'heure vers 14h30. On part en Corée du Sud et vous allez découvrir une culture très différente de la nôtre, avec un culte notamment de la perfection qui pousse les plus jeunes à se faire refaire le visage, à travailler 24 heures sur 24. On va découvrir aussi un parc d'attractions sexuelles où les Sud-Coréens viennent consommer leur nuit de noces. On va aussi s'offrir du papier toilette.
C'est sympa comme cadeau, ça.
Mais on ne sera pas vexés, vous verrez.
Bah oui. Mais d'abord, les robots, ils nous entourent. Faut-il forcément en avoir peur?
Jusqu'à 15h.
Il y a toujours eu des fantômes dans la machine. Des segments aléatoires de code qui se sont regroupés pour former des protocoles imprévus.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment se fait-il que des robots qu'on laisse dans l'obscurité recherchent la lumière? Comment se fait-il que des robots placés dans un espace vide se rapprochent les uns des autres plutôt que de rester seuls?
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Sad, sad robot. Les robots sont partout, la preuve. La Cité des sciences et de l'industrie leur consacre une exposition à Paris. Notre invité Pierre Duconseil, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes commissaire de cette expo. Alors on va commencer, on aime bien faire ça ici dans la curiosité sur RTL. On va commencer par définir notre sujet. C'est quoi un robot?
Alors je vais commencer par une citation de l'inventeur du premier vrai robot industriel qui a été installé sur une chaîne de General Motors en 1961. Ouais. Il s'appelait Joseph Engelberger. Sa définition est la suivante. Je ne peux pas définir un robot.
Ça commence bien.
Mais
peur.
Je le reconnaîtrais si j'en rencontrais un.
Ouais.
Donc tout simplement, effectivement, le robot n'a pas une définition stable. Mmh. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, c'est une machine. Hein, comme d'autres machines, sauf qu'elle est un peu plus autonome que les autres. Et pour qu'elle ait cette part d'autonomie, il faut qu'il y ait des capteurs qui analysent l'environnement de la machine,
ouais.
Un programme informatique qui traduise ces informations, les interprète, et qui déclenche des actionneurs, c'est-à-dire, je sais pas, des éléments de mobilité, des préhenseurs pour attraper des objets, etc., etc.
Donc là,
et éventuellement,
ouais.
Pardon.
Allez-y.
Une petite brique d'intelligence artificielle maintenant pour augmenter encore son autonomie. Ça, c'est un robot.
D'accord, bien compris. Donc, ce dont on va parler là, on ne va pas parler par exemple des algorithmes, on ne va pas parler forcément de tout ça. Donc, on est vraiment sur des machines physiques. Hein, c'est ce qu'on va décrire ensemble.
Mais il y a des algorithmes quand même dans ces machines pour les faire fonctionner.
On a bien compris.
Pierre Duconseil, est-ce qu'un robot, c'est une machine qui ressemble aussi à un humain ou à un animal?
Vieille question.
Oui, je l'ai ressortie un peu poussiéreuse, mais bon, je me suis dit, vous auriez sans doute la réponse.
Les humanoïdes, enfin, parmi les robots, effectivement, c'est là vraiment l'arbre qui cache la forêt.
Hein. Ouais.
Il y en a très 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 peu. Ils sont servent essentiellement à la recherche.
Mm-hmm.
On en voit un peu maintenant, grâce à Aldébaran, Softbank Robotics, les Pepper et Nao, qui commencent à un peu coloniser notre environnement, parce que c'est des robots humanoïdes qui communiquent avec nous.
Oui, puis dans les films aussi, c'est comme ça qu'on les représente. Les robots, par exemple, dans la mise en onde de François Touchard, iRobot, c'est des robots qui ont notre physique, notre apparence. Donc on a l'impression que le robot de demain, bah, c'est le robot qui est notre double, en fait, qui va nous remplacer même.
Probablement pas. Le robot de demain, c'est une machine qui ne nous ressemblera sûrement pas. D'ailleurs, le robot de demain est peut-être déjà là, mais on ne le sait pas. Si ce n'est que la figure humaine de la robotique, elle est ancienne, puisque le dieu grec Héphaïstos avait déjà imaginé des servantes dorées qui étaient des formes humaines robotisées, en tout cas autonomes, qui servait effectivement les dessins du dieu. Donc vous savez, cette fameuse représentation humaine de l'être pas vivant mais qui est capable de nous ressembler, c'est une vieille affaire. Après, avec le siècle des Lumières, on a commencé à s'intéresser à l'anatomie humaine.
Mmh.
Et là, tout d'un coup, on a commencé à se rendre compte que la machine humaine était peut-être un peu, enfin la machine humaine, l'homme humain était peut-être un élément un peu mécanique, un peu machinique, et donc probablement que ces deux éléments, ces deux traditions, en fin de compte, l'une de scientifique et l'autre imaginaire religieuse, font que peut-être aujourd'hui en Occident, on a une représentation effectivement de la robotique à travers un humanoïde, alors que fondamentalement, le premier vrai robot, c'est une machine sur une chaîne automobile en 1961 sur General Motors.
Et les robots, ils nous entourent, je disais, ils sont partout. C'est vrai qu'on ne le soupçonne pas forcément. Quand on monte dans un ascenseur, on croise un robot.
On est dans un robot.
Ah oui.
Dès lors qu'effectivement les portes de la machine ne se referment pas sur vous, ça veut dire qu'il y a des capteurs qui ont été capables de détecter votre présence et de ne pas déclencher la porte, ou lors de la déclencher seulement une fois que vous êtes rentré ou sorti. Donc c'est un robot.
Ils sont où les robots dans d'autres comme ça, lieux communs de notre quotidien, dans une entreprise, dans un supermarché, on les trouve où?
Alors par exemple, vous pouvez avoir des aspirateurs robots maintenant chez vous, les fameux petits Roombas, vous savez, ces aspirateurs tout ronds qui...
Ah oui, qui se déplacent tout seuls.
Qui se déplacent tout seuls dans votre appartement, qui le scannent et puis qui font le ménage à votre place, à condition d'avoir bien rangé chez vous, parce que sinon ça ne marche, il ne fait pas le rangement, il ne fait qu'aspirer.
ça n'existe pas, parce que Thomas Hugues essaye de ranger ses livres sur son bureau, il n'y a pas de robot aujourd'hui qui permettent de ranger sa chambre ou son bureau.
Non, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de robot universel. Ce n'est pas un truc qu'on achète, qu'on pose quelque part et qui nous remplace, qui se substitue à nous. Ce qui serait quand même serait horrible pour nous, parce qu'on ne servirait plus à rien. Donc serait en gros devancer notre mort très, très largement. Non, les robots sont destinés à une action précise dans un environnement précis. Ça sait faire ça, mais pas plus.
Oui, mais par exemple, c'est quasiment indispensable dans un avion. C'est-à-dire que le pilotage automatique, c'est un robot.
Alors, le pilotage, c'est un robot dès lors qu'effectivement, l'avion est une machine avec des capteurs qui est capable d'interpréter l'environnement. Oui. À travers ces systèmes informatiques, de déclencher des éléments mécaniques de l'avion, je sais pas, des ailerons, le déclenchement des trains d'atterrissage, etc., etc. Donc là, c'est un élément robotique. Comme chez soi, sur votre maison peut être un robot dès lors qu'il y a des dispositifs de domotique qui automatiquement, je sais pas, ouvre les stores quand vous vous levez le matin ou déclenche votre machine à café, etc. Voilà, ou alors ce genre de choses.
Alors les robots, ils sont déjà parmi nous, on l'a bien compris grâce à vous, Pierre Duconseil, mais leur statut dans notre société, il n'est pas encore très bien défini, et c'est sans doute l'un des défis que l'humanité a relevé dans les 20-30 prochaines années. Est-ce que les robots vont avoir des droits, des devoirs, une forme de liberté? On va répondre à ces questions dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Tous ces moments se perdront dans l'oubli.
RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les robots sont au menu de notre curiosité à la Cité des sciences et de l'industrie qui leur consacre une exposition à Paris. Notre invité, Pierre Duconseil, est l'un des commissaires de cette expo. Un robot qui ressemble à un humain, on l'évoquait tout à l'heure, qui fait le travail d'un humain, qui semble exprimer aussi des sentiments comme dans Blade Runner. Est-ce que c'est de la science-fiction ?
Complètement, oui. néanmoins, maintenant, il y a des chercheurs qui travaillent sur les émotions artificielles. Notamment dans l'exposition, on présente un chercheur qui s'appelle Pierre-Yves Houdeyer qui travaille sur les émotions artificielles d'un... Ah non, pas excusez-moi, je me trompe. On a un robot Pepper, par exemple, qu'on présente et qui est capable de reconnaître les émotions d'un visiteur, c'est-à-dire le sourire, le plaisir, l'inquiétude. Et tout ça pourra effectivement communiquer avec ces machines.
Donc ça existe, mais qu'est-ce qu'il a, ce robot? Déjà, à quoi il ressemble, ce robot Pepper? Et qu'est-ce qui lui permet de voir, par exemple, que je suis heureuse de le rencontrer ou étonnée?
C'est simplement, il a une attitude humaine, effectivement, il a une attitude humanoïde, et puis derrière, il y a un logiciel extrêmement performant de reconnaissance d'expression et d'intelligence artificielle qui permet de communiquer avec vous.
Donc, oui, c'est le petit robot blanc, là, c'est ça qu'on voit, par exemple, à l'entrée de certains magasins,
qui accueille le public.
Mais donc, les hommes qui l'ont programmé, évidemment, on rappelle que c'est la base, ils lui font exprimer des émotions à ce robot?
Non, ils miment des émotions.
Oui.
Les machines ne font que mimer. Ouais. C'est nous qui nous projetons dans ces machines-là.
Ah, et c'est un peu la différence entre nous et les robots.
Une facilité de l'homme. L'homme a une facilité à se projeter dans les machines qu'il crée. Et il a tendance effectivement à donner des intentionnalités un peu à son image. Mmh. Et ça s'appelle le piège anthropomorphique. C'est-à-dire qu'on prête à une machine des intentions qu'elle peut pas avoir parce qu'elle a pas de conscience, elle a pas d'émotion, elle a rien du tout.
Comme on peut le faire avec un animal de compagnie, par exemple aussi.
Oui, sauf que l'animal, il est quand même vivant lui, quelque part. Donc on peut maintenant, vous savez, le statut de l'animal change.
Justement, ils sont plus considérés comme du mobilier. Hein, les les animaux, la loi a changé. Mais la question va peut-être se poser, alors, dès aujourd'hui ou dans les décennies à venir, pour les robots, le statut social des robots, on commence à y réfléchir.
Statut social, surtout d'abord statut juridique.
Ouais.
Qu'est-ce que ce serait qu'une personne électronique ? Parce qu'en gros, c'est ça. Une machine, un robot, c'est beaucoup d'électronique et beaucoup de mécanique. Mais en gros, ce serait le statut de la personne électronique. La Commission européenne a réfléchi sur ces histoires-là. Il y a des dossiers, des dossiers qui sont sortis sur cette question. Mais c'est une question un peu piégeuse parce qu'il faudrait présupposer une conscience à la machine.
Ouais.
Donc une forme de vie consciente et de responsabilité, hein. Ce qu'a priori elle ne veut pas avoir parce que ça n'est qu'une machine. Et dans ce cas-là, si par hypothèse effectivement cette machine avait une conscience, nous ça voudrait peut-être dire que nous sommes nous-mêmes des machines. Donc automatiquement il y aurait un renvoi d'ascenseur de certaine manière qui pourrait être très très étrange. En plus de ça, une machine qui aurait une conscience et auquel on demande de faire une tâche dangereuse, elle pourrait refuser. Une machine qui aiderait une personne âgée par exemple dans sa vie quotidienne, elle pourrait demander un salaire ou partir en congé. Donc vous voyez un peu vers où on s'avance, autant payer une personne humaine.
Pierre Duconseil, je rappelle que vous êtes commissaire de l'expo Robot qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris-La Villette. L'autre film auquel on pense spontanément quand on pense à l'avenir des robots, c'est Terminator.
Belle soirée pour une balade, hein ?
Belle soirée pour une balade.
Alors demain c'est la lessive, plus rien à se mettre, hein ?
Plus rien à se mettre, exact.
Eh, où ce mec se fout de nous ? Il lui manque une case.
Tes vêtements. Des vêtements, vite, vite.
Et des robots qui prennent le pouvoir sur Terre et des humains qui vont entrer en résistance. Est-ce qu'il faut avoir peur des robots, même si c'est nous qui les construisons et qui les alimentons ?
Bah non, c'est des machines, c'est de nous qu'il faut avoir peur, pas des robots.
Oui, mais si on pose cette question-là, c'est qu'on voit régulièrement surgir dans l'actualité des histoires. Par exemple, des chercheurs qui font en sorte que deux... Alors là, on est dans l'intelligence artificielle, vous allez me dire, c'est pas exactement la même chose, mais que deux...
Robots conversent, c'est ça ?
Oui, deux intelligences artificielles, ils discutent et puis ils se rendent compte que ces robots, moi je dis robots, ont créé un langage qu'eux-mêmes ne sont pas capables de comprendre, les chercheurs. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais bon, là, on touche l'intelligence artificielle, effectivement, c'est des choses que j'ai pas abordées dans l'exposition, donc ça m'est un peu difficile d'en
parler.
Oui,
on ne peut pas faire abstraction de l'intelligence artificielle, puisqu'elle est dans les robots, vous nous l'avez dit.
Tout à fait, bien sûr. Mais quand même, à la fin, quelque part, ces programmes d'intelligence artificielle sont des programmes d'algorithmes particuliers, c'est les hommes qui les fabriquent et qui les paramètrent. Ils les testent, effectivement, et parfois, il y a des choses bizarres qui apparaissent.
Donc, il faut quand même, vous dites, plus se méfier des humains qui sont derrière les robots que des robots qui ne joueront pas forcément des tours.
Bah, les robots, ils sont quelque part enfermés dans leur destin de machine, leur destin de programmation et d'algorithme.
Alors, les robots peuvent tout faire, notamment quand on parle de sexe. Dans un instant, on vous emmène dans l'autre pays des robots, le Japon.
Ah oui ?
Ça vous fait rire déjà, ça, Sidonie ?
Non, mais je vois à quoi ça ressemble.
Oui.
C'est des poupées sexuelles, c'est ça ?
Ah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la réalité virtuelle. Vous mettez un masque sur le visage et puis là, bah, vous faites en fonction de vos goûts. On va vous raconter ça dans un court instant sur la
télé. Je vais mettre un dessin animé.
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
La robotisation va bouleverser les guerres du futur. L'intelligence artificielle annonce une redéfinition des équilibres stratégiques qui prévalent actuellement.
La curiosité est un vilain défaut.
L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement.
Sur RTL.
Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir.
Et toujours avec nous, Pierre Duconseil, commissaire de l'exposition Robots, qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris-La Villette. On va parler des robots militaires. Là, on vient d'entendre cette mise en onde à propos des robots de guerre, et puis aussi avec l'extrait du film Robocop. Il y a des robots qui, d'ores et déjà aujourd'hui, notamment dans l'armée américaine, ont beaucoup de missions, ont des missions très concrètes, c'est ça ?
Alors, c'est un sujet dans l'exposition que nous abordons essentiellement à travers quelques vidéos. Mm-hmm. Tout ce que je sais, moi, de ces machines, d'abord, c'est très compliqué d'avoir des informations vous l'imaginez bien, très détaillée.
Par exemple, il y a des robots qui servent à les déminer, tout
simplement. Oui, tout à fait.
Donc c'est très concret.
J'allais en parler, effectivement, il y a des robots démineurs, mais c'est aussi des robots qui sont téléopérés, d'une certaine manière. Donc il y a une partie, effectivement, toujours de contrôle de la machine, et puis après, effectivement, le robot lui-même finit par opérer la tâche finale.
Ça ressemble à quoi, moi, déjà, un robot démineur? Parce que moi, j'en ai jamais vu.
C'est un petit robot sur des chenilles, avec un bras articulé qui va, prendre l'objet en question, le déplacer et le faire exploser plus loin, par exemple. Ou couper un câble d'alimentation ou des choses comme ça. Ou sinon, les drones. Les drones, c'est des robots, mais qui sont toujours téléopérés.
Ça veut dire qu'il y a un humain
Il y a quelqu'un derrière, effectivement, qui l'oriente, le pilote, sachant que le robot, par contre, lui, automatiquement, il contrôle son assiette et sa stabilité en l'air.
Ah, un drone, c'est un robot.
Exactement.
Ça, je ne savais pas. Tous les drones sont des robots.
Bah oui, parce qu'automatiquement, ils contrôlent leur stabilité en l'air. Ce n'est pas la personne qui télécommande qui contrôle ça, c'est la machine. Parce que sinon, l'opérateur, il a trop de choses à faire. Hein. Donc, c'est un robot, mais téléopéré. Donc, il n'est pas 100% autonome.
Mais Pierre Duconseil, on parlait tout à l'heure du statut des robots. Et je vous posais cette question aussi parce qu'on se rend compte que dans l'armée américaine, des gradés qui ont des robots démineurs dans leurs troupes, si j'ose dire, sont prêts à... Et c'est arrivé, c'est pas un fantasme, sont prêts à prendre des risques pour les protéger. Donc on est dans la projection dont vous parliez tout à l'heure, dans l'anthropomorphisme et ses conséquences.
Exactement. On aime bien nos machines, tout simplement. Oui. On a investi dedans, de l'intelligence... de l'argent, du temps, et donc se séparer d'elle, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours un échange effectivement intime avec les machines, même si on s'en défend d'une certaine manière.
Et à propos de relations intimes, on part au Japon.
Le Japon, qui
est un pays qui produit beaucoup de robots, notamment sur le marché du sexe. Et l'imagination des fabricants est sans limite, notamment en matière de casques de réalité virtuelle. C'est ce que nous racontait le journaliste Guillaume D'Alessandro.
Il faut bien considérer que la technologie ne pouvait pas échapper à la pornographie. Ouais. Donc l'usage le plus simple a été évidemment le casque en réalité virtuelle. Vous voyez, vous êtes l'un des partenaires. C'était, imaginons que vous soyez un homme, n'est-ce pas? Vous êtes donc couché, vous avez une partenaire tard du porno qui arrive sur vous. Donc vous pouvez tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous avez l'image qui se déploie, si vous voulez, complètement, exactement comme, comment dire, un manège d'attraction. Alors le casque a le gros avantage de laisser les mains libres, mais il y a évidemment des simulateurs qui ont été mis au point pour simuler, pardon, soit la masturbation, soit un rapport traditionnel. Et là aussi, on a la possibilité, avec le casque à réalité virtuelle, en même temps qu'on a ce massage électronique, de pouvoir configurer la partenaire suivant exactement la volonté qu'on puisse avoir.
Pierre Duconseil, est-ce qu'on retrouve des robots sexuels dans votre exposition ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est une expo familiale.
Désolé, mais oui, c'est ça. Il y a un petit côté quand même familial, la Cité des sciences et de l'industrie. Bien que l'un de nos commissaires scientifiques aurait bien aimé, mais bon, on s'en est défendu.
On ne dira pas son nom.
Mais il se reconnaîtra.
Bon, très bien. Merci beaucoup. Cette exposition, elle est donc à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Il y a aussi un livre de l'exposition qui est proposé aux éditions de la Cité des sciences et de l'industrie.
Et dans un instant, dans la curiosité, on part en Corée du Sud. Vous allez voir, c'est un pays fascinant, plein de contradictions, où il est plus facile d'utiliser la 5G que d'avorter.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.